Débat IMO, une émission proposée par Wininvest sur Radio IMO et Radio Territoria.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Voilà pour ce nouvel opus de Débat IMO avec nos amis de Wininvest. Vous êtes sur IMO et sur Territoria, une émission basée bien évidemment sur la ville, la fabrique de la ville, l'immobilier, le logement, la rénovation du logement, l'habitat en général, pour toutes et pour tous. C'est bien le sujet du jour. On parle d'évolution des usages, on parle d'évolution du secteur, on parle des prix, bien évidemment, puisque il y a un vrai sujet également sur les prix, qui achète, comment, de quelle façon, quels sont le profil également des investisseurs, mais surtout, est-ce que tout le monde achète à l'immobilier? Est-ce que tout le monde a accès au logement? Et ce numéro, si vous le voulez bien, les amis, on va le dédier à une cause nationale, un regard national qui est fondamental, c'est l'accès au logement pour les personnes qui sont en situation de handicap. J'ai l'habitude de dire que souvent les personnes en situation de handicap empruntent des chemins balisés dans des rues, sur des trottoirs, sur des accès, et d'autres qui leur sont complètement fermés. C'est ça le chemin balisé des personnes. Pouvons-nous avoir une ville inclusive, hein, une ville qui inclut toutes les personnes qui ont aujourd'hui un rôle dans la société, puisque les personnes handicapées, qu'elles soient handicap ou non, sont aussi des agents économiques et elles ont le droit de citer bien évidemment dans notre société. Comment la ville se construit autour de cette problématique, c'est tout ce qu'on va décrypter aujourd'hui avec nos experts que l'on a souhaité réunir, avec bien évidemment l'éditorialiste qui est le directeur général également de Wininvest France avec nous. Bonjour Xavier Bellevaux.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va Xavier?
Ça va bien.
On est heureux de vous revoir.
Merci.
Voilà pour ce débat IMO, une question qui vous tient particulièrement à cœur et vous allez d'ailleurs nous expliquer pourquoi. Vous avez souhaité réunir tout un panel d'experts justement, mais on va parler bien sûr aussi de l'immobilier, puisque dans Débat IMO, je vous le rappelle qu'on a l'édito de Xavier, le débat justement sur la question cruciale de l'accès au logement pour les personnes en situation de handicap. On parlait des taux, hein, de la météo des taux avec Maëlle Bernier qui est la porte-parole de Meilleur Taux. On va parler politique également avec les experts qui sont avec nous et Dieu sait qu'on a une grande dame de l'immobilier avec nous qui est députée de la première circonscription du Finistère. Elle est à distance avec nous, c'est Anaïg Lemeur. Bonjour Anaïg Lemeur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va en parler puisque vous venez de remporter un combat de haute lutte au Parlement avec la loi éponyme, la loi qui va s'appeler désormais la loi Lemeur sur la location meublée. On va en parler tout à l'heure. Une mesure d'équité face au manque crucial de logements. Merci également à Pierre-Yves Lenin d'être avec nous. Vous êtes le directeur général des Amis de l'Atelier. Vous défendez haut et fort cette cause. Merci d'être avec nous, d'avoir pris le temps de venir sur le plateau et on va mettre un focus sur votre action, donc il faudrait d'ailleurs qu'on le fasse beaucoup plus régulièrement qu'on ne le fait également. Dans le lab, on distingue toujours une start-up, voilà, innovation sociale, technique, sociétale, toute forme d'innovation dans notre société aujourd'hui. Ce sera le cas pour Théophile Henry, bonjour.
Bonjour à tous.
Directeur du développement chez Domani. Voilà, Domani, c'est demain. Domani Matino. Voilà. On va en parler tout à l'heure. En tout cas, une très très belle initiative, comme quoi finalement la France a un incroyable talent. Après tous ces focus, bien évidemment, on vous laissera toujours, les amis, librement la parole. C'est parti pour l'édito. L'édito pour Débat IMO, comme d'habitude, avec vous Xavier, c'est à vous.
Bonjour à tous, merci d'être présent en tous les cas, ça me fait très plaisir. Alors je dis souvent que c'est un sujet qui me touche pour plusieurs raisons, et je dis souvent également que c'est des personnes qui sont souvent silencieuses. Tu vois rarement des personnes handicapées descendre dans la rue pour descendre la cove du logement et savoir comment ils vont être logés. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, je dis que c'est une histoire qui me touche parce que familialement, à titre personnel, j'ai deux jeunes sœurs adultes maintenant en situation de handicap qui ont parcouru des chemins à travers, à l'époque on disait les IME, les IMP, les CAT qui sont devenus les ESAT. Et puis quand la personne n'a plus la capacité de travailler, elle vient dans ce que j'appelle le foyer de vie. Et c'est vrai qu'une des premières consternations que j'ai vues, c'est que j'ai pas mal d'amis qui sont professeurs des écoles, et notamment en CP, CE1, et qui se retrouvent de plus en plus avec le devoir de gérer des enfants qui sont en situation de handicap, et qui malheureusement, l'handicap est trop lourd. Voilà, et je me dis qu'on est en train de vivre la fin peut-être des IME, et ça avait vraiment tout son sens parce que c'était des structures qui faisaient aussi prendre conscience aux parents par moment que un enfant qui va être présent seulement 45 minutes par jour n'a pas la capacité de pouvoir se sociabiliser avec les autres et de grandir dans un chemin qui va être périn pour lui. Donc tout ça, c'était des sujets qui m'ont un petit peu alerté. Au-delà de ça, j'étais assez surpris sur la partie gouvernementale. On dit souvent, selon le gouvernement, le défenseur des droits a reçu. En 2023, 137 000, enfin pour pas dire 138 000 réclamations d'informations et d'orientations concernant le handicap, soit une hausse de 10% par rapport à 2022. Et je crois que ça a encore progressé. On dit toujours que le handicap, à ce jour, c'est à la tête de toutes les saisies en matière de discrimination en 2023. Et pour autant, dans les faits, c'est catastrophique. Voilà. Clairement, le handicap est encore tabou dans notre société. C'est une réalité, surtout quand il est visible. Ça, c'est aussi une autre réalité, le regard de l'autre. Il attire alors les regards en engendrant des réactions qui sont un peu différentes. Et en termes d'immobilier, on a beau se dire, depuis 2005, on a la loi handicap, si je dis pas de bêtises, qui a été appliquée en 2007, qui était assez claire sur le sujet. On avait, elle devait imposer à tous les logements d'habitation rénovés ou nouveaux construits de pouvoir réaliser, selon les normes pour les personnes en situation de handicap, des travaux d'accessibilité simplifiés. Et on sait bien que dans les faits, dans les locaux collectifs aujourd'hui, et on en parlera, ce n'est pas la réalité. Et ça, c'est un peu problématique. Effectivement aussi, on a eu des éléments en 2018 sur l'évolution du logement, avec notamment l'aménagement du numérique et de la loi Elan. Ça réformait l'immobilier et le handicap. On avait plus de pouvoir pour les associations qui devaient pouvoir normalement faire des choses. En réalité, elles ont plutôt été pointées du doigt. Donc il y a plusieurs questions qui me viennent et que j'aimerais qu'on en débat, c'est comment aujourd'hui fonctionne un foyer de vie. C'est important. Comment on s'occupe du vieillissement également des personnes qui sont en situation de handicap aujourd'hui? Comment on peut acheter un bien quand on est une personne en situation de handicap? Voilà. Et comment on peut avoir aussi des activités qui sont liées à son rythme? Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Alors c'est vrai qu'on me dit toujours, mais il y a des aides, on peut aider. Effectivement, il y a des aides qui ont été mises en place. MaPrimeAdapt, des aides de la caisse de retraite, des prestations de compensation, etc. Mais pour autant, c'est toujours comme d'habitude en France, un peu le parcours du combattant. Donc c'est vrai que j'aimerais vous interpeller tous sur le plateau sur ces sujets-là. Merci.
Merci. Eh bien, ça m'a donné un ton très direct sur le débat, sans concession et très librement. C'est bien le pari de Débat Immo, tout de suite après ça. Madame la députée, vous êtes avec nous toujours en direct. Comment vous réagissez? Quel regard la députée que vous êtes, la parlementaire, porte sur cette question essentielle de l'accès au logement pour les personnes en situation de handicap?
Alors déjà, j'ai un regard qui se différencie peut-être de l'ensemble des députés. Je suis masseur-kinésithérapeute, donc du coup, de par mon métier, je vois la difficulté effectivement du handicap au sein des logements classiques. Maintenant, il faut distinguer, il y a toute forme de handicap, il n'y a pas que le handicap. On voit souvent les gens en fait en fauteuil roulant, mais le handicap, ce n'est pas que ça. Il y a une adaptation à avoir, il y a des handicaps aussi visuels, des handicaps psychologiques, cognitifs, etc. Donc, il y a vraiment une diversité de types de handicaps. Donc, attention à ne pas avoir qu'une vision et qu'un schéma. Donc, effectivement, ce que je vois, c'est qu'il y a eu des lois. Il y a notamment, effectivement, la loi sur l'accessibilité qui aura 20 ans, donc qui a été votée le 29 janvier 2005, le jour de la naissance de mon fils, qui est lui aussi handicapé. Donc, du coup, je retiens bien la date. Mais ça fait déjà 20 ans où on doit encore combattre pour avoir une accessibilité, que ce soit au niveau des voiries, que ce soit au niveau des bâtiments, aussi des collectivités, au niveau des services publics, mais partout, rentrer dans un magasin. Mais effectivement, quand on parle de logement, c'était vraiment une forme des fois de discrimination, parce que les logements qui étaient réservés aux personnes en situation de handicap étaient souvent ceux qu'on retrouvait en rez-de-chaussée de bâtiments, donc loin de la lumière, et ils n'avaient pas la capacité forcément de pouvoir accéder à tout type de logement. Donc ce qu'a changé la loi Elan, c'est qu'on a voulu en fait une adaptabilité du logement, c'est-à-dire que les fluides soient extérieurs et qu'on puisse effectivement faire évoluer les cloisons, parce que, comme je vous l'ai dit d'abord, il y a handicap et handicap. Il y a des plans de travail à mettre plus bas pour des personnes de petite taille. Il y a aussi pour les personnes en fauteuil roulant, mais il y a aussi en cas de cécité, peut-être qu'un couloir très large, ce n'est pas l'idéal. Voilà, il y a une façon d'adapter, et c'est toute la difficulté effectivement de l'architecture que de pouvoir la réadapter. Mais je pense que c'est vraiment une grande nécessité. Chacun doit pouvoir vivre partout et pas forcément en rez-de-chaussée d'immeubles. Donc, moi, j'avais beaucoup bataillé à ce moment-là, notamment pour qu'il y ait plus d'ascenseurs, parce que la loi sur les ascenseurs en France était encore désuète par rapport aux autres pays. Donc maintenant, en fait, moi, j'avais fait imposer qu'on ait des ascenseurs dès le deuxième niveau et non plus à partir du voilà, deuxième ou troisième ou quatrième étage. Donc voilà, il y avait une nécessité d'adapter l'ensemble. Et puis quand on parle de handicap, je suis désolée, le handicap, c'est lié à une situation. Donc un jour, on peut se retrouver, quand on se retrouve avec des cannes notamment, en situation de handicap par rapport à une situation donnée. Ce n'est pas forcément un état permanent et du coup, il faut vraiment être agile là-dessus, être innovant. Et c'est tout ce que l'on demande justement à ceux qui bâtissent que d'avoir en fait des solutions pour être plus flexibles, plus adaptables dans leur logement.
Merci beaucoup pour ces commentaires. Pierre-Yves Le Nain, vous êtes le directeur, on dit Le Nain ou Le Nain ?
Le Nain.
Le Nain. Vous êtes directeur général de l'Association des Amis de l'Atelier. D'abord, on va mettre un petit focus sur les Amis de l'Atelier. Vous allez nous expliquer quelle est la mission de cette association. Et je vais vous demander également de réagir justement pour entamer ce débat sur ce que vient de nous dire Anaïs Glemmer.
Merci. Écoutez, la fondation des Amis de l'Atelier, parce que c'est une fondation, a aujourd'hui plus d'une soixantaine d'années d'existence. C'est un acteur qui est très spécialisé dans le champ du handicap, notamment handicap psychique et autisme, et qui gère dans ce cadre-là, dans le cadre des politiques publiques en vigueur, des établissements, des services, des dispositifs. Voilà, on en gère à peu près une centaine. Principalement en Île-de-France, mais également un petit peu en Haute-Vienne. Ça nous donne une vision assez large sur les politiques publiques du handicap, puisqu'il s'avère par ailleurs qu'on accompagne principalement des adultes. Grosso modo.
Combien de personnes vous accompagnez en moyenne ?
On accompagne environ 4000 personnes,
chaque année.
Chaque année, bien sûr, dont 80% d'adultes et 20% d'enfants.
Et à l'origine de la création des Amis de l'Atelier, c'est une personne, c'est une prise de conscience. Qu'est-ce qui a présidé à la création de la fondation ?
C'était initialement une association qui a été fondée par une personne de la communauté protestante de Châtenay-Malabry, et c'est une fondation qui est toujours ancrée hein, dans ses valeurs protestantes. Et l'objectif, c'était d'apporter une réponse concrète, de proximité, quotidienne, à des personnes qui est en situation de handicap, qui à l'époque grandissaient dans un contexte qui est pas celui qu'on connaît aujourd'hui, avec les grandes lois qui ont pu permettre de construire un secteur médico-social. Et donc ces temps historiques d'il y a 60 ans, c'est un peu des temps où ça reposait sur le bénévolat, ça reposait sur l'initiative, ça reposait sur l'innovation. Et puis voilà, l'histoire est partie comme ça.
Est-ce que ces questions à la lumière, parce que ce que rappelle la députée Anaïs Glemmer, c'est que on a quand même une évolution des mentalités qui fait que la loi s'en est mêlée. Alors la loi sur l'adaptation, la loi sur le logement. Alors je pense à MaPrimeAdapt' dans le cadre de la loi Elan par exemple et de la loi Climat et Résilience qui a entamer finalement un schéma. Est-ce que vous constatez, vous, de votre côté, à la fois une prise de conscience de l'opinion beaucoup plus accrue, mais aussi du pouvoir, qui, quelque part, il faut quand même bien se le dire, doit alimenter nécessairement, et c'est politique, les besoins financiers, je dis bien les mots comme ils sont, pour doter les associations. Puisque le gros sujet de vos actions, c'est que on peut avoir tendance, Pierre-Yves, à penser, c'est la réaction que j'aurais moi en tant que journaliste, bien évidemment, que quelque part vous suppléez également à un manque apporté par la collectivité, j'entends bien l'État, les collectivités locales, dans le soutien aux familles qui sont dans des situations parfois désespérantes. Anaïs Glemmer l'a indiqué dans le sous-jacent de sa prise de position, elle a une personne de famille qui la touche particulièrement, un enfant, qui est dans une situation de handicap, et elle a rappelé très justement que le handicap ne concernait pas uniquement le handicap moteur, mais aussi les handicaps cognitifs, toutes formes de handicap, qui sont de facto un facteur d'exclusion de la vie collective.
Alors, effectivement, le secteur du handicap dans son ensemble est un secteur associatif à 90%. Il y a environ 10% d'établissements publics, mais c'est quand même principalement du secteur associatif.
Donc le public a, on peut dire, défini une politique, c'est l'associatif qui domine.
Et c'est l'associatif qui domine avec des financements de l'État.
Voilà.
En revanche,
c'est
une sorte de délégation qui dit pas son nom. J'allais dire, c'est pas forcément problématique dès lors qu'on est accompagné dans la réponse aux besoins et
dans les moyens qui vous sont donnés.
Et dans les moyens qui sont donnés, et c'est globalement le cas. On peut après avoir des discussions sur le jusqu'à quel point on doit financer, jusqu'à quel point on est libre dans notre gestion, mais quand même, on est dans un secteur qui est entre guillemets maillé. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui sont en capacité de gérer soit des établissements médico-sociaux, parce qu'on s'adresse à des situations peut-être un peu plus complexes, un peu plus lourdes. Et là, ça demande une ingénierie sanitaire et sociale importante. Et puis, madame la députée le disait très bien, le handicap, c'est pas quelque chose d'uniforme. Il y a des personnes qui sont en situation de handicap, mais qui ont des potentialités, des niveaux d'autonomie qui sont largement suffisants pour envisager une vie en milieu ordinaire. Et il faut qu'on soit en capacité d'accompagner ces différents parcours.
Ça, c'est le travail du projet de vie, intégré avec la personne en fonction de ses capacités, de ce qui peut être fait avec les professionnels.
Exactement. Mais il faut être en capacité de pouvoir répondre à ce projet de vie. C'est-à-dire que le projet de vie, ça peut être une personne qui commence en établissement et qui va travailler un projet avec des travailleurs sociaux, avec des personnels de soins, pour aller vers un peu plus d'autonomie dans la vie ordinaire. Et puis, il y a aussi des personnes en situation de handicap pour qui la présence en établissement ne se pose pas. Parce qu'elle est, elle a déjà une autonomie qu'elle peut faire fructifier, faire valoir. Et là aussi, il faut qu'on soit en capacité de proposer. Et ce sujet de quand vous disiez tout à l'heure que tout le monde doit avoir accès au logement, j'allais dire là, on est un peu au cœur de la thématique. Et les institutions associatives qui travaillent dans le secteur médico-social, à une époque, j'allais dire, géraient des établissements médico-sociaux avec un régime très régalien, des autorisations, des financements dédiés. Et puis, et aujourd'hui, on est dans quelque chose où on va, j'allais dire, diversifier ce qu'on peut proposer. Et typiquement, le sujet des politiques du logement. Est aujourd'hui un des gros axes de développement de ces organismes gestionnaires.
En immobilier opéré, c'est le cas pour l'hébergement d'urgence, par exemple dans les grandes métropoles à Paris, mais ça, c'est le cas également dans le...
Alors l'hébergement d'urgence, c'est pas tellement c'est le public différent. Handicap.
Ouais. Je disais analogie, c'est le cas des associations qui gèrent de l'hébergement d'urgence en immobilier opéré, mais ça peut être aussi des associations où vous gérez de l'immobilier pour le compte de personnes qui sont en situation de handicap.
En fait, l'innovation, elle va pas être sur le mode d'hébergement. C'est-à-dire que la grande orientation aujourd'hui des politiques publiques, c'est de pouvoir passer d'un mode d'hébergement collectif à du logement. Et j'utilise volontairement le double terme hébergement et logement.
Quand vous dites collectif, précisez.
Un établissement de 40 places, voilà. Par définition, c'est du collectif, parce que vous allez avoir dans un même ensemble immobilier 40 personnes qui vont être accompagnées par des travailleurs sociaux, par des professionnels de soins. On est dans un ensemble collectif qui a son unité, son homogénéité et son organisation.
On peut évoquer le thème de parcours, du coup.
Ah, mais c'est totalement ça. Aujourd'hui, on raisonne parcours. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez les jeunes. On va parler de parcours de scolarisation. Quand on parle des adultes, l'idée, c'est plutôt de parler de parcours inclusifs. Et le logement en fait partie.
Le périmètre d'action de votre association, c'est essentiellement donc Paris-Île-de-France.
Ouais,
et la Haute-Vienne.
Et la Haute-Vienne, tout à fait.
Sans indiscrétion, si vous me répondez si vous souhaitez, est-ce que le budget de votre association dépend essentiellement des subventions publiques?
Grosso modo, oui. Aujourd'hui, la Fondation des Amis de l'Atelier...
À plus de 80%.
Largement, oui. D'abord parce que, historiquement, elle a géré des établissements médico-sociaux, sans autres activités que celle-là. Donc, j'allais dire...
C'était le départ.
C'était tout à fait, c'était le départ. Et on était même à 98% de financement public. Aujourd'hui, on reste bien évidemment très majoritairement à financement public. Mais on commence à...
Est-ce que vous faites appel aux dons, aux legs?
On fait appel aux dons et aux legs, tout à fait. Et puis, on commence à avoir des réflexions autour du logement qui font que Bah, typiquement, le sujet d'avoir une activité de gestion locative, ça fait c'est des axes de travail aujourd'hui à la fondation, c'est-à-dire qu'il y a il y a des logements qui sont propriété de la fondation, qui sont loués à des personnes en situation de handicap, et j'allais dire, on essaye de ce point de vue-là de diversifier
beaucoup
ce qu'on a proposé.
D'ailleurs, vous en boitez pas comme Habitat Humanisme qui gère sa propre foncière et qui effectivement opère. Xavier Bellevaux.
Alors moi j'avais une petite question, quand vous parliez tout à l'heure justement d'avoir des personnes qui peuvent loger à l'extérieur, et en fait c'est des personnes qui vont être intrinsèquement liées en interne au sein des foyers de vie, ou pas du tout, ça peut être des personnes qui sont complètement liées à l'extérieur, et vous avez vous la capacité de pouvoir proposer une habitation qui est adaptée ?
Alors oui, clairement, c'est des personnes, il y a des personnes qui sont en foyer de vie, et puis il y a des personnes qui n'y mettront jamais les pieds, qui vont être accompagnées par des services, pour travailler leur inclusion dans la cité, et un des axes de travail de cette inclusion, ce sera justement de trouver le logement, de s'y maintenir, et ça peut être dans un logement de la fondation, mais on en a très peu, et on a beaucoup de partenariats avec des bailleurs sociaux notamment, qui sont des vrais partenaires du quotidien aujourd'hui, hein.
Et qui sont en souffrance, enfin, je ne sais pas si Annick veut rebondir, mais on le voit bien aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte que depuis quelques années, on a de moins en moins de constructions, on a de moins en moins d'appartements qui sont en conformité, donc on se retrouve avec de plus en plus de parents qui sont isolés avec plusieurs enfants à gérer, donc je ne sais pas comment aujourd'hui les pouvoirs publics peuvent être sensibilisés, et en tout cas nous aider à avancer dans l'immobilier sur ces sujets-là.
On va poser la question d'ailleurs à Anaïg Lemeur. Anaïg, je voudrais vous faire aussi, je ne peux pas résister, vous faire rebondir au comité des droits sociaux du Conseil de l'Europe, qui avait reconnu la violation de l'État français de ses obligations vis-à-vis des personnes en situation de handicap et de leur famille, obligations internationales et propres responsabilités, dans une décision qui a été rendue en décembre 2022, après des mois d'examen. Est-ce que vous, de votre point de vue, en tant que politique, vous vous dites que finalement la France tente ou essaye d'être finalement à la pointe de l'innovation pour régler ces problèmes? Ça, c'est la première question. Et enfin, vous faire réagir sur ce que vient de nous dire Xavier, sur quelles seraient selon vous les solutions pour accompagner l'hébergement vers une transition justement, et faire ce que vous disiez Pierre-Yves, aller vers finalement une vie ordinaire, c'est-à-dire une vie normal de citoyens, pour revenir finalement dans le giron de la société après un coup de pouce et une aide des associations.
Alors, pour répondre en fait à l'engagement de l'État, notamment sur les personnes en situation de handicap, je pense qu'on n'en fait jamais assez. Je veux dire, on voit qu'on a de plus en plus de notifications, c'est-à-dire qu'on diagnostique plus les handicaps actuellement, mais on les accompagne peu derrière. C'est mon point de vue, il y a beaucoup de dispositifs, beaucoup de choses qui sont mises en place, beaucoup d'associations et d'acteurs effectivement qui convergent, mais il est des fois parfois difficile en fait de faire des priorités, et la priorité liée au handicap n'est pas forcément toujours celle qui est le plus en avant. Maintenant, moi je suis d'un département où effectivement nous étions très loin, on a eu 30 ans d'une seule gouvernance au sein du conseil départemental qui n'a pas mis en avant cette politique de handicap, et donc du coup on se retrouve très en retard, notamment sur les établissements d'accueil, et le parcours a été rompu à un moment avec des parents qui effectivement se retrouvaient, et là ça pouvait être une situation dramatique, à reprendre chez eux et réaccueillir chez eux leurs enfants sans accompagnement ni social ni médical ou autre, et donc du coup on se retrouvait là, je pense, sous une forme de négligence de l'État, et donc là on remonte la pente progressivement pour réaffirmer notre volonté d'accompagnement. Maintenant il faut voir que c'est beaucoup porté par le monde associatif, qui des fois trouve des difficultés. On a plusieurs associations chez nous qui se retrouvent en difficulté financière et de gestion, mais derrière on a aussi une volonté, je pense, commune que d'y parvenir. Donc il y a toutes ces notions aussi de parcours, il faut aussi raisonner autrement. Moi, je suis heureuse qu'un jour, on ait en fait des personnes avec des handicaps divers partout, et non pas de façon, des fois, dans un foyer de vie, dans un foyer logement ou autre, quelque chose de plus épars. Effectivement, c'est la réussite du parcours. Mais ça nécessite effectivement, comme on dit, logement. Moi, je pense souvent à habiter aussi. des accompagnements liés au travail, aux mobilités, liés au rythme de vie, de pouvoir se lever, s'habiller, etc. Choses qui sont souvent rythmées dans des lieux communs, mais qui ne sont pas forcément, une fois qu'on est chez soi de façon autonome, ça demande une coordination de mise en place. Et c'est tout l'intérêt d'être accompagné par des éducateurs, notamment, pour permettre ce parcours. Donc, je pense qu'on a encore du travail, vraiment fortement, parce que face à la notion aussi de handicap, on est avec un autre révélateur de notre société, qui est le vieillissement des populations. Donc, les problématiques ne sont pas forcément exactement les mêmes, mais elles s'en rapprochent sur quand on parle d'adaptation du logement, quand on parle d'accompagnement, notamment pour les gestes de la vie quotidienne ou autre. Donc, il y a toute cette notion-là, c'est tout un secteur à développer. Et je pense que pendant des années, on n'a pas développé tous les métiers en lien, notamment avec le handicap ou le vieillissement, et on va se retrouver en grosse difficulté. Nous sommes dans un département, le Finistère, qui est un département très vieillissant et avec derrière des difficultés d'accompagnement qui vont être telles que je ne vois pas comment demain nos proches, soit en situation de handicap, soit en vieillissement, vont trouver des gens pour les accompagner.
On l'a vu.
Pardon, juste, et ce qui est très drôle, et en complément, c'est qu'on le voyait il y a 15 ans en arrière, on avait des personnes qui rentraient en foyer de vie, elles ne pouvaient pas rentrer avant 55 ans en général, c'était assez bien cartographié, et on le voit aujourd'hui avec l'évolution, les problématiques aussi que rencontrent aujourd'hui les ESAT, c'est-à-dire que la difficulté à avoir du travail vis-à-vis des entreprises qui sont confiées, et avoir une équipe éducative qui peut s'adapter à leurs besoins, on se retrouve malheureusement avec des personnes en foyer de vie qui ont des fois 19 ans, 20 ans, 25 ans, parce que toute cette notion qu'on avait avant d'autres institutions qui pouvaient exister ne sont plus. Et c'est vrai qu'on se retrouve de plus en plus avec des foyers de vie qui deviennent un peu, alors je suis désolé pour l'expression, c'est pas forcément la bonne, mais on met un peu tout le monde et puis après aux équipes éducatives de trouver la bonne solution en fonction du bon profil et du bon projet de vie. Et à un moment, c'est quand même compliqué, je trouve. Voilà. Je sais pas si vous voulez
alors,
rebondir.
On va vous laisser répondre. Anaïg, je voulais vous poser une question complémentaire sur votre commentaire. C'est sur le rôle de l'État. On le voit aujourd'hui, l'État n'a plus d'argent et on est dans une austérité budgétaire terrible. Et on n'ignore pas que la question du handicap prend une dimension tout à fait particulière. Et vous avez même rajouté la pression démographique avec le vieillissement des populations. Très clairement, dans un contexte d'austérité potentiel budgétaire. Et on le voit bien sur la politique du logement, puisque le prochain projet de loi de finances sur l'immobilier, le logement en général, est finalement assez pauvre. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir trouver des relais très différents dans le futur et qu'à un moment donné, il faudra assumer peut-être l'idée que la collectivité ne pourra peut-être pas tout faire ?
Je pense que c'est plus global que la collectivité en soi. C'est tout un raisonnement. C'est faut-il accompagner demain c'est un peu ma famille politique. Moi, je préfère encourager au travail et peut-être moins accompagner justement dans des situations où on est en plein emploi quand il y a de l'emploi, des gens qui ne sont pas en situation de travail, et encourager plus des gens qui sont en situation de handicap. Ce sont des choix, comme je l'ai dit, c'est peut-être violent ce que je peux dire, mais à la fois, moi, quand on a parlé, notamment avec les collectivités, le conseil départemental notamment, moi, je lui ai demandé de sanctuariser justement les politiques liées au handicap, parce que c'est la réalité de notre territoire, c'est vraiment la nécessité. Donc, il y a un moment où c'est un petit peu, on pourra pas faire grossir le porte-monnaie, donc il faudra jouer sur des jeux de pochettes et de faire passer l'argent d'une pochette à une autre, mais pas forcément faire grossir derrière. Donc, on se retrouve réellement en difficulté, mais c'est tout un modèle, c'est-à-dire c'est Bien un sûr. Modèle aussi éducatif, c'est un modèle sociétal, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos aînés, qu'est-ce que l'on fait de nos proches. C'est une question, c'est pour ça que j'entends que c'est aussi des institutions religieuses qui le portent, parce que c'est une question presque de philosophie.
Mais il n'y a rien de, j'allais dire, d'anodin dans le fait de dire, ou même d'exceptionnel dans le fait de dire, à un moment donné, on ne peut pas tout attendre de l'État. Et que peut-être que l'initiative collective, publique, les cultes, on en parle, bien évidemment, la dimension citoyenne peut prendre aussi le relais. En fait, ma question elle est plus précise, c'est-à-dire que On voit bien que le soutien financier aux associations et aux fondations, c'est le cas pour vous Pierre-Yves, il est très important de la part des collectivités locales et de l'État en général. Avez-vous, vous, cette impression qu'à un moment donné, même les associations, vous avez évoqué dans votre secteur, dans votre circonscription, les difficultés qu'ont certaines associations, elles les ont, ces problèmes, parce qu'elles ont vu baisser leurs subventions?
Oui, effectivement, il y a cette part-là, effectivement. Maintenant, moi, en tant que parent, je suis dans l'anticipation, c'est-à-dire que mes choix, je les oriente aussi, non pas en fonction de mes choix uniquement personnels, je les fais en fonction aussi des difficultés qui peut-être viendront au sein de ma famille, que ce soit l'accompagnement de mon fils à venir, donc qui est Asperger, ou l'accompagnement de mes aînés qui, eux aussi, sont vieillissants. C'est-à-dire que j'oriente aussi mes choix de vie, d'investissement, de loisirs, en fonction de tout ça. C'est-à-dire que je me restreins individuellement pour pouvoir permettre demain de laisser quelque chose de serein parce que les situations, je les anticipe. Donc, il y a besoin, je pense, on a parlé beaucoup de parcours tout à l'heure, mais d'accompagner ce parcours au sein même des familles et d'accompagner les familles dans ce parcours. C'est vrai que l'État doit accompagner et le fait, mais le fait-il suffisamment au cas par cas? On vous dira toujours non, de toute façon, parce que les besoins augmentent, la diversité des situations se change et il y a une notion à l'autre qui évolue dans notre société. Mais je pense que il y a aussi une prise de conscience et d'accompagnement à avoir collectivement et pour pouvoir justement se dire il faut qu'on porte tous ensemble les problématiques de notre société. Donc je suis d'accord qu'on peut pas prendre, on peut pas tenir que sur l'État.
Mais la question, elle est bien plus profonde que ça. Vous l'avez rappelé d'ailleurs. C'est que il y a une prise de conscience qui est collective. On voit bien que le prochain enjeu de notre société moderne, cette nouvelle forme d'anthropologie, sera une anthropologie vieillissante. On le sait. Pierre-Yves, justement, commentaire sur à la fois ces questions essentielles. Budgétaire, vous avez effectivement émis des pistes que vous explorez actuellement dans votre fondation pour avoir d'autres relais de croissance. Vous le savez bien, à un moment donné, peut-être que l'impact des subventions et peut-être ça pourrait se tarir.
Écoutez, par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, oui, le fait que l'État soit confronté à des difficultés financières et budgétaires. Très honnêtement,
forcément avoir un impact.
Il y aura un impact pour tout le monde et dans le champ du handicap également. Pour autant, je rebondirai bien sur le terme de prise de conscience de collective que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure vous évoquiez les foyers de vie il y a 15 ans où effectivement on rentrait très jeune et puis on sortait pas ou très tard. En 15 ans, il s'est passé beaucoup de choses et c'est plus tellement la réalité ça. C'est-à-dire que un jeune, s'il commence son parcours en foyer de vie, foyer d'hébergement, en général, on va très vite commencer à travailler le sujet du parcours. Parce qu'on sait que les trois premières années sont assez cruciales pour lui donner les armes.
Bien sûr.
Et de fait, ça repositionne les foyers de vie, foyer d'hébergement plutôt sur des publics plus âgés. Parce que dès que les jeunes vont être en capacité d'habiter plutôt dans le diffus, dans la cité, j'allais dire, on tente. C'est aussi ça, l'inclusion. C'est tenter, c'est le droit à l'erreur, potentiellement,
mais
à l'échec.
Le diffus dont vous parlez, est-ce que la réception est bonne, concrètement? Alors, je ne vais pas vous demander de taper sur certains agents immobiliers, mais
très honnêtement,
est-ce que globalement, vous, avec l'évolution que vous avez vue, puisque nous, on le voit, l'évolution, parmi une nouvelle génération d'agents immobiliers, plus engagés, plus soucieux, vous le constatez, ça?
Honnêtement, oui. Vraiment, il y a quand même une évolution. C'est rassurant. On peut dire qu'elle pourrait être plus rapide.
Oui.
Mais en revanche, il y a quand même quelque chose qui est à l'œuvre. Et ce sujet de la place de la personne dans la cité, de la personne en situation de handicap, c'est quand même quelque chose qui perfuse de plus en plus. Et par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, moi, je veux quand même insister aussi sur la place de l'innovation et du choix stratégique. C'est-à-dire que à une époque, les organismes qui géraient du médico-social, ils commençaient par créer un ESAT, et puis après, pour qu'il puisse y avoir des travailleurs dans cet ESAT, et bien on créait l'IME en amont et on créait le foyer de vie en aval. Ça, ce modèle-là,
terminé.
C'est terminé. Je ne vais pas vous dire qu'il y en a plus, ce n'est pas vrai. Mais il y a quand même un mouvement de transformation de l'offre qui est assez puissant en France et sur lesquels les pouvoirs publics misent beaucoup en termes de discours politique, de signal politique, et c'est une bonne chose. Et typiquement aujourd'hui, enfin, je prends l'exemple de ma fondation. Bon, on a beaucoup de projets autour de l'habitat inclusif, autant créer des foyers nouveaux, moderniser ce qu'on a aujourd'hui. Oui, il n'y a pas de problème, on le fait, bien entendu. C'est une question de qualité aussi du logement et de l'hébergement. Mais en revanche, dire qu'aujourd'hui, on va créer énormément de nouveaux foyers, et je parle des foyers qui ne sont pas médicalisés, c'est-à-dire des foyers médicalisés, c'est différent. On s'adresse à des personnes qui ont des besoins beaucoup plus lourds en termes de santé. Mais des foyers de vie, foyers occupationnels, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la direction dans laquelle ma fondation souhaite aller ? Ben non. En fait, on va moderniser notre parc, on va le garder de manière qualitative, mais on va plutôt aller vers des modèles, soit on accompagne des personnes dans la cité, avec des services, avec tout ce qu'il faut mettre autour pour que l'accès au logement puisse se faire, soit on va se positionner sur des sujets plus difficiles, avec des prises en charge médicalisées. Mais, j'allais dire, la case du milieu, c'est pas tellement la direction stratégique qu'on souhaite prendre.
D'accord.
C'est plus général aussi. Mais ça, c'est plus général, parce qu'au-delà de là, ce qu'on dit pas, c'est qu'aujourd'hui, pour une place en foyer de vie ou une place aujourd'hui en ESAT, combien de personnes sont sur liste d'attente dans tous les départements de France ? Ce qui a aussi obligé d'avoir un autre regard. Quand on a retravaillé tous les dossiers autour de l'humanitude, de la prise en compte, etc., des projets, on s'est aussi aperçu que de toute façon, on avait une grosse problématique sur le fait qu'on avait... Alors, c'est vous qui avez plus de stats et elles sont de meilleure qualité que les miennes, mais combien de personnes vous avez sur liste d'attente aujourd'hui pour entrer dans un foyer de vie médicalisé ? Quand vous avez une chambre disponible.
Sur les foyers de vie médicalisés, il y a des listes d'attente qui sont massives. Mmh. Parce que justement, massive, ce sont des places médicalisées.
Ah oui, c'est des attentes qui peuvent, comme les bailleurs sociaux... atteindre plusieurs années.
Ah oui, complètement.
Oui.
Et ça, c'est une autre problématique. C'est-à-dire que d'un autre côté, on l'entend bien qu'il n'y a pas que la Fondation des Amis de l'Atelier aujourd'hui qui dit on n'a pas la capacité, enfin, on ne souhaite peut-être pas acheter, il vaut mieux rénover ou trouver d'autres solutions. Parce qu'il y a déjà cette adaptation que chacun essaye de prendre. Mais la grosse problématique, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des écoles ou des IME, on la retrouve dès maintenant ici. C'est-à-dire que dans 15, 20 ans, si on ne reprend pas les constructions, si on ne reprend pas en tout cas, ou qu'on on ne transforme pas les métiers d'immobilier.
Dans le vote de parcours avec vos sœurs, comment ça s'est passé?
Moi, j'ai eu beaucoup de. Enfin, je vais être clair, j'ai eu beaucoup de chance parce que, en fait, je suis un garçon très calme, très posé quand il faut rechercher les bons éléments, et j'ai eu la possibilité de les accompagner intelligemment. J'ai eu des grands professionnels qui étaient présents, donc ce qui m'a permis d'être.
Et qu'on peut les accompagner.
On peut les accompagner, et je reste très vigilant. Anaïk le disait tout à l'heure. Je pense que moi, j'ai plus mes parents aujourd'hui. Je pense que quand on grandit, moi, je suis l'aîné. Il était pour moi important de préparer, en tout cas, d'une manière ou d'une autre.
Et elles se trouvent dans quelle situation aujourd'hui ? Elles sont prises en charge dans le cadre d'un contrat associatif, ou est-ce qu'elles elles sont arrivées dans le diffus, justement.
Alors, elles étaient d'abord... il y en a une qui travaillait en autonomie complète. Elle travaillait, elle avait sa propre... ce qu'on appelle son logement partagé, voilà, où elle vivait à plusieurs, etc., comme un co-living aujourd'hui. Ça se passait très bien. Après, comme on le sait, passé 40 ans, il y a aussi, par moments, quand on est sur des handicaps moteurs, bah, il y a d'autres pathologies qui arrivent, qui peuvent être la schizophrénie, la maniaco-dépressivité ou autre. Donc là, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Et là, par contre, on est par moments obligé de réadapter le projet de vie, parce qu'on a une personne qui est plus en capacité de travailler ou en essai de se déplacer dans une entreprise tiers, et auquel cas on le retravaille. Mais ça, c'est fait chaque année, les professionnels sont de grande qualité, il y a des réunions, il y a des orientations, et il y a des tests qui sont faits, et on fait très attention, parce qu'il y a aussi la problématique de se sentir chez soi, et c'est par moments, on le dit pas assez, mais c'est compliqué pour eux de se dire...
Sans les aidants familiaux, globalement, on serait dans une grande difficulté, parce que la question des aidants familiaux est aussi cruciale dans ce parcours dont vous définissez les contours.
Ah bah, le sujet des aidants familiaux, il est incontournable, notamment parce que justement, il y a des personnes qui n'ont pas de solution aujourd'hui, soit en établissement, soit en service, et que quand il n'y a pas de solution, bah, c'est la famille qui prend le relais. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est qui est aujourd'hui encore très présent. Et pour le coup, il y a une prise de conscience aujourd'hui sur ces sujets-là. Mais
Et en complément, ce qui est important de dire, c'est que du coup, ça nous oblige, nous, agents immobiliers, quoi qu'il en soit, à changer notre façon de travailler et notre façon de voir les choses, parce qu'on va se retrouver de plus en plus avec une clientèle de plus en plus différente, avec non pas que des bailleurs privés ou des bailleurs institutionnels, et on aura par moment des fondations ou autres. Cette obligation aussi de se former, d'être beaucoup plus dans le conseil, et on le voit bien aujourd'hui, on a besoin de plus en plus de conseils pour prévenir ce qui va se passer, parce qu'on voit bien que la situation que vous disiez tout à l'heure, de se retrouver dans une case très précise, va disparaître. Donc, et c'est aussi pour ça que tout à l'heure on parlera de Domani, parce qu'on est en train de chercher et d'explorer toutes les pistes.
Merci beaucoup. Juste une dernière question, Naïg, et je vous laisse aller. Quelle est la solution que, par exemple, les collectivités locales, les mairies, donnent de l'immobilier, vous savez, l'immobilier obsolète, parce qu'elles n'ont pas les moyens de le rénover, et qui pourrait permettre... Est-ce que c'est une solution, ça, à Naïg, à l'échelle d'un territoire, de dire, on va leur donner à ces associations, comme vous le disiez très justement, Pierre-Yves, la possibilité d'être faire de l'immobilier opéré avec... à impact hein, dans vos populations. Est-ce que c'est une solution peut-être ?
Alors, il y a déjà en fait des modèles sur de l'habitat solidaire qui se créent effectivement sur des bâtiments qui des fois ne trouvent pas preneur, et on trouve en fait avoir des gens qui se positionnent et qui permettent justement d'inclure dans la ville aussi, de se dire que c'est pas toujours... il ne faut pas que les personnes soient en situation de précarité sociale, soient en situation de difficulté liée à un handicap, soient mis aussi à l'extérieur de la ville, dans des quartiers dédiés. Et ça, je pense que ça se fait de plus en plus un accompagnement, parce que les villes ont bien pris conscience que c'est devenu une politique à mener. Moi, je vois très bien qu'à Quimper, c'était quand même la promesse de campagne de la maire de Quimper était liée au handicap, hein, parce qu'elle est elle aussi concernée, et il y a des choses qui avancent. Donc effectivement, de se dire qu'on donnerait préférence ou qu'on accompagnerait mieux sur un projet justement de ville, maintenant, on est tous aussi, quand on est élu, dans une volonté de mixité, et pas forcément de faire que des biens soient dédiés exclusivement justement au handicap. Quand on parle d'inclusion, c'est pas forcément de dire on déplace l'ensemble du foyer ou de l'institut ou autre au cœur de la ville. C'est aussi faire qu'il y ait des connexions entre les personnes, donc c'est quand même un engagement fort que de le faire. Donc ça se fait, je pense qu'au cas par cas il y a quand même des belles initiatives qui se font, et on arrive à avoir une vision d'inclusion beaucoup plus forte dans nos communes.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps de passer par le plateau. Un immense merci à vous, Anaïg Lemeur. Je rappelle que vous êtes la députée de la première circonscription du Finistère, et bravo pour le combat sur le logement saisonnier. Enfin, une loi d'équilibre. On en reparlera d'ailleurs, bien évidemment. Je sais que vous êtes très sollicité. Merci d'avoir pris le temps. Un immense merci à vous, Pierre-Yves Lenain. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Fondation Les Amis de l'Atelier. On peut vous trouver sur Internet, on peut vous faire des dons, on peut vous faire des legs, on peut vous aider en tout cas à je sais que vous avez une part bénévole aussi importante. Ce que vous faites est fondamental. Vous êtes l'illustration même de ce que doit être le citoyen dans notre cité. Et toute l'économie, qu'elle soit l'économie de la connaissance, des médias, de la communication, mais de l'immobilier, a ce devoir essentiel de vous aider. Et c'est bien évidemment ce que nous ferons. Merci d'avoir pris le temps de passer par le plateau de Débat Immo. Xavier à suivre. On va faire une petite météo de l'immo, si vous voulez bien, avec notre ami Maël Bernier. On va voir les taux. Ça se baisse de plus en plus. La BCE a annoncé un taux... une baisse de 0,25, c'est très bien. Elle avait déjà fait ça. C'est la troisième fois que ça arrive. On va prier le ciel que ça continue.
Il y avait un objectif pour la fin d'année.
Ça fait pratiquement 300 points de base d'économie. Revoit-on ou pas les indicateurs de reprise? C'est ce qu'on va examiner tout de suite. Merci à tous. Ne zappez pas. On se retrouve pour justement le vrai du faux avec Maël Bernier. Et voilà, de retour sur Débat Immo versus le vrai du faux. Voilà, c'est la séquence que l'on fait avec notre ami Xavier Bellevaux, toujours avec nous sur le plateau. On va parler maintenant de la météo des taux d'intérêt, et on pouvait pas rêver mieux. On a la meilleure sur les taux d'intérêt immobiliers en France, c'est Maël Bernier. Bonjour Maël.
Bonjour à tous.
Maëlle, merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a eu, alors on va mettre les pieds dans le plat, une variation, on peut le dire considérable, des taux ces dernières années, notamment ces dernières semaines. Est-ce qu'on peut faire un point de départ jusqu'au niveau tel que nous le connaissons aujourd'hui ? Où en sommes-nous réellement ?
Alors écoutez, il y a un an pile, on était autour de 4,45 sur 20 ans. On sortait avec les 4,5. À l'heure où on se parle, on est un peu en dessous de 3,5 sur ces mêmes 20 ans. Donc, on a perdu 100 points de base, 1 point de taux en un an.
Waouh, ça fait du bien hein, quand on vous le dit comme ça. Hein. Alors, justement, 3,2.
Bah, oui.
Alors, 3,5 aujourd'hui sur 20 ans. On est d'accord, Maëlle ?
Un peu moins, parce que là, les derniers barèmes reçus sont en baisse.
Alors,
à nouveau.
Est-ce que d'ici la fin de l'année, pronostic, on peut songer à passer sous la barre des 3?
Non, moi je pense pas du tout parce que on voit que les banques vont à nouveau baisser, donc on va être encore une fois autour de 3,40 là sur le mois de novembre. Mais il y a des éléments qui font que moi je ne pense pas qu'on va baisser. En tout cas pour les moyennes, ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir de temps en temps des dossiers super bons qui vont passer sous la barre des 3, mais ils seront très rares. Mais quand on parle des moyennes, je ne vois pas comment ils peuvent passer sous la barre des 3% à partir du moment où les taux de référence, c'est-à-dire notamment l'OAT 10 ans. Sont toujours autour de 3% et ne baissent pas. Or, c'est quand même ça qui sert de référence. Donc, il y a un écart, normalement, si vous voulez, que les banques doivent respecter, parce que sinon, en gros, c'est un produit où elles perdent beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, on voit bien que des OAT à 3, des taux à 3,40, vous voyez, c'est pas large, la marge. Hein.
Okay. Rapidement, vous aviez ?
Non, j'allais dire, il fallait le lier également à l'inflation, parce qu'on nous avait dit en fin d'année qu'on passerait sous les bascules en dessous de 3% en fonction de l'inflation, et l'inflation, on ne va pas aussi vite que ce qu'on pensait. Donc, moi, je rejoins Maëlle, j'ai un peu du mal à croire qu'on va aller en dessous des 3%.
Maëlle, ça reste quand même une très bonne nouvelle, on est d'accord ?
Ah bah de toute façon, il faut quand même se dire que cette baisse de taux là dont je vous ai parlé d'un point, si on prend un ménage moyen qui gagne 4 000 euros net, c'est plus de 18 000 euros de gagner en un an de capacité d'emprunt.
Waouh.
Donc c'est quand même pas négligeable.
Oui, oui. C'est ce qui fait passer le dossier ou pas, hein, on est d'accord.
Et puis on le sent. C'est ce qui peut faire passer le dossier et on le sent, c'est-à-dire qu'en plus on voit que les Français reviennent. Nous sur le mois de septembre a été un mois extrêmement bon chez Meilleur Taux, où on a fait quasiment x3 par rapport à il y a un an en termes de dossiers de crédit déposés. Hein, alors on n'est pas revenu à ce qu'on a connu juste avant le début de la guerre en Ukraine, mais on est quand même sur un très 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 bon trend, et vraiment septembre a été exceptionnel et octobre est aussi bon.
Alors d'autres questions me sont posées, nombreuses, on va faire un tri. La première, c'est on nous avait annoncé 3,2% en moyenne, légèrement au-dessous de 3,5% sur 20 ans. Quid des crédits sur 10 et 15 ans? À quel taux on peut trouver au mieux?
Alors sur 15 ans, on va être autour de au mieux, alors si on parle du au mieux, le 10 ans, on peut le passer sous la 3%. Le 15 ans, il est autour des 3. Si c'est le au mieux, mais si c'est sur des moyennes, le 15 ans, il est autour de 3,25, 3,30. Et le 10 ans, il est à 3,15, quoi.
Oui, donc on voit bien qu'on retrouve. Alors, pour vous, donc, je récapitule. Vous, c'est important ce qu'on dit, les amis. Prévoyez une stabilité relative à ces taux-là d'ici le début du premier trimestre 2025. On est bien d'accord ?
C'est exactement ça. Moi, je vois des taux qui vont continuer à baisser. On aura certainement une nouvelle baisse en janvier parce que on démarre l'année et les banques aiment bien mettre un gros coup en janvier. Et après, encore une fois, si les OAT restent à ces niveaux-là, je ne vois pas comment les taux peuvent descendre plus bas.
Question, les courtiers qui ont quand même bien souffert avec cette crise violente, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin des courtiers? Je pense que oui, bien évidemment. C'est pas vous qui allez nous dire le contraire. Mais surtout, est-ce que concrètement, on peut dire aux Français qui nous écoutent, les banques se sont remises à prêter, vraiment?
Ah, clairement. Alors, honnêtement, ça, c'est un message qu'il faut vraiment avoir. Aujourd'hui, vous n'avez pas une banque française qui ne prête pas et qui ne cherche pas à prêter en crédit immobilier. Toutes les banques sont là, sont présentes. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs des taux qui baissent. C'est aussi pour ça qu'on a à nouveau accès à une concurrence et à une offre large. Toutes les banques, les caisses régionales, les crédits agricoles, les caisses d'épargne, les crédits mutuels, les grands réseaux nationaux, toutes
toutes prêtes. Et puis c'est un peu ce qu'on appelle la guerre saine, hein, c'est-à-dire que la guéguerre entre les établissements pour aller capter des nouveaux dossiers de crédit profite directement aux emprunteurs. Donc on est vraiment dans une situation qui a rien à voir avec celle d'il y a un an.
Et merci. J'ai également oui, juste rapidement. Une petite remarque, Maëlle, parce que moi je m'étais noté que pour la fin d'année, on serait aux alentours des 3,20 pour la partie 15 ans, des 3,40 sur 20 ans et en gros 3,50 sur 25 ans. Je voulais voir un peu ce que tu en pensais. Et au-delà de ça, moi j'ai aussi le sentiment que les banques des clients qui sont justement qui ont l'habitude aussi pour la première fois sortent vraiment les griffes. C'est-à-dire concrètement, il y a ce côté, je le voyais par exemple la Banque Postale, la Caisse d'Épargne actuellement, veulent pas voir leurs clients partir. En gros, on voit bien qu'il y a des décisions en interne qui disent bah non, on va tant pis, on va s'aligner sur l'auto par rapport à un courtier ou même par rapport à la banque qui veut se mettre en face. Je sais pas si toi tu le ressens aussi ça sur septembre-octobre ou pas.
Globalement, en fait, c'est toutes les banques, comme toutes les banques prêtes, effectivement, elles ont pas intérêt à perdre des clients parce que ce serait un peu idiot d'aller en chercher pour en perdre. Mais il faut savoir que nous courtiers, on travaille en premier lieu avec le client de la banque, enfin avec la banque du client. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient nous voir, il nous dit bah moi je suis dans telle banque, je voudrais voir un peu ce qui se passe sur le marché, je cherche un prêt. On va interroger sa banque, on va lui dire bah en gros votre client il est chez nous. Donc qu'est-ce que vous faites? Et honnêtement, si ça passe avec elle, ça passe avec elle. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que le courtier ne l'exclut pas du tout. La banque du client, bien au contraire. On est dans un partenariat, donc le but, c'est pas d'aller piquer des banques de A à B. Ben le but, c'est que le client trouve le taux le meilleur, le plus adapté. Et si c'est dans sa banque que l'offre sera la meilleure, eh ben, il va dans sa banque. Mais nous, encore une fois, on fait une démarche générale. Et on interroge la banque du client en premier lieu.
Merci beaucoup Maëlle Bernier. Donc pour récapituler les amis, c'est très clair. On sait que sur 20 ans, on est aux alentours merci entre 20 et 25 ans, entre 3,2 et 3,5. Qu'on est sur 15 ans à peu près, voilà, à peu près dans les 3 quand on a des très bons dossiers. Mais en moyenne, on serait plutôt entre 3,1 et 3,2. Et sur les 10 ans, on peut être légèrement au-dessous. Ce qui quand même représente un écart de plus de 100 points de base, comme l'a rappelé Maëlle Bernier. Les banques reprêtent. Et donc, plus que jamais, il est temps d'acheter, on peut toujours acheter, remettons-nous sur le parcours résidentiel. C'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs pour les courtiers. Merci beaucoup à vous, Maëlle Bernier. Je rappelle que vous merci êtes responsable et porte-parole de la communication et porte-parole du courtier Meilleur Taux. Et n'oubliez pas, je veux avoir le nom de l'artiste qui a peint une très jolie peinture derrière chez vous. Voilà, problème. Et pourquoi pas, voilà, beaucoup de goût, en tout cas magnifique. Merci à vous. Voilà, à merci suivre, comme d'habitude, dans Débat Immo, on va parler d'innovation. Et là, on va parler d'une super innovation sociale avec Domani, que nous allons mettre un focus sur cet habitat pour les personnes, par exemple, qui vieillissent et qui ont envie de vieillir bien et mieux. On se retrouve dans quelques instants. Vous êtes sur toujours Débat Immo, sur Territoria et sur Immo. On est ravis d'être avec vous, avec bien sûr Xavier Bellevaux. Bah, sans lui, on ne pourrait pas faire Débat Immo. Un débat immobilier sans Xavier Bellevaux, c'est juste pas possible. Le Lab, c'est la séquence qu'on aime bien ici à Débat Immo, puisque on met le focus sur une initiative, une innovation, de quelque nature qu'elle soit. Elle est liée bien évidemment directement ou indirectement à l'habitat. Bonjour Théophile.
Bonjour Sylvain.
Théophile Henry, vous êtes le patron du développement de Domani.
C'est ça.
Domani, what is this?
Donc Domani, demain pour les Italiens qui nous suivent. Vous avez compris, demain, on en a parlé, il y a un mur du vieillissement qui arrive en France. On a des solutions traditionnelles pour le vieillissement, la perte d'autonomie, les résidences seniors, les résidences autonomie, les EHPAD, qui sont pas suffisantes et pas toujours satisfaisantes. Et donc on s'est dit, chez Domani, on va créer une entreprise de l'économie sociale et solidaire soutenue par le groupe Caisse des dépôts qui anime des habitats inclusifs à destination de ces personnes âgées en perte d'autonomie. Alors qu'est-ce que c'est que l'habitat inclusif? Ça a été créé par la loi Elan qui dit que c'est un mode d'habitat à destination de personnes âgées ou bien en perte ou bien en situation de handicap qui décide à titre de résidence principale d'avoir un mode de vie partagé. Et nous, on a pris le terme mode de vie partagé au pied de la lettre et on s'est dit qu'on allait faire des grandes colocations.
C'est quoi? C'est un kibbutz urbain? c'est le kolkhoz? C'est de la coloc? C'est du coliving pour personnes âgées?
Si vous voulez, c'est un grand T9.
C'est de l'habitat intergénérationnel, c'est quoi?
Alors, nous, on va faire un grand T9, 8 parties privatives d'une trentaine de mètres carrés.
Ah, carrément!
Et un espace de vie partagé qui sert de salon séjour cuisine.
C'est une maison?
C'est un grand plateau.
C'est un grand plateau, oui.
Un grand plateau dans un immeuble neuf. Je vous expliquerai pourquoi.
Alors, vous allez nous expliquer parce que un T9, c'est juste incroyable.
C'est assez novateur, assez innovant. Et d'ailleurs, c'est important l'innovation pour satisfaire les besoins des personnes âgées. Pourquoi on y croit à ce format-là? Un, parce qu'on s'aperçoit que les personnes âgées, elles veulent vivre chez elles. Elles veulent se sentir dans leur domicile. Et donc, quand on est 8 dans un logement, on arrive encore à se sentir chez soi. C'est pas la même chose quand on est 100 dans un établissement. Donc, la première aspiration d'une personne âgée, c'est « je veux vivre chez moi ». Une deuxième aspiration fréquente, c'est « je veux vivre chez moi, mais je ne veux pas vivre l'isolement ». Et quand on est 8 à partager des repas, automatiquement, on est moins isolé. Une troisième aspiration, c'est « je suis en perte d'autonomie et j'ai besoin d'être accompagné ». Vous savez, quand vous perdez en autonomie, vous avez le droit à de l'accompagnement à domicile, une heure par jour, deux heures par jour, en fonction de votre degré de perte d'autonomie. Et le principe, c'est qu'à 8 personnes, on met en commun ces heures-là pour avoir un accompagnement à domicile toute la journée. Et donc, c'est très rassurant pour eux et pour leur famille.
Attendez que je comprenne. Basique, hein. Je peux être basique.
Sûr.
L'APA, c'est à peu près 2 heures par jour.
C'est ça.
En moyenne. Hein. Et on l'obtient très difficilement. Je suis passé par là pour mon père. Donc, l'idée, c'est que si j'ai 8 personnes éligibles à l'aide aux personnes âgées, j'ai quelqu'un à plein temps.
C'est ça. À domicile. Dans un domicile partagé.
Alors bien sûr, surcoût imaginé dans le ratio individuel que chacun va prendre en charge.
Voilà. Alors bien sûr, on va pas mutualiser l'aide à la douche, hein, on est bien d'accord. Mais notamment sur les repas, il y a une mutualisation qui semble évidente. Et c'est vrai que pour les aidants.
Oui, mais comment on fait pour les douches?
Ah bah ça reste personnel, hein, ça reste personnalisé. Donc il y a des aidants pour chacun sur cette phase-là. Mais sur la préparation des repas, sur tout ce temps-là, on peut vraiment allonger la durée.
Vraiment, je suis basique. Est-ce que ça veut dire que j'ai 8 personnes? J'ai 8 aidants qui viendront 2 heures par jour?
Alors non, on n'aura pas 8 aidants. En fait, l'avantage, c'est que les aidants, au lieu d'aller voir Madame X, Monsieur Y et faire un quart d'heure de voiture, ils vont, entre guillemets, avoir plusieurs personnes dans un même domicile. Et donc, pour eux aussi, ça va être un gain de temps.
Ce qui suppose, dans le mécanisme de l'aide, que vous avez prévu un dispositif d'intégration d'une personne quasiment à plein temps.
Alors, on travaille avec des services d'aide à domicile qui existent déjà. Hein.
D'accord.
Et on travaille en collaboration étroite avec, souvent, les CCAS des communes, qui ont des structures qui fonctionnent bien. Et nous, on s'insère dans ce tissu-là.
Très clair.
Donc, on a parlé de « je vais vivre chez moi »,« je ne veux pas vivre l'isolement », je veux être accompagné parce que j'ai besoin d'être accompagné et je veux aussi avoir un logement adapté. Et c'est surtout pour ça qu'on travaille dans le neuf, pour avoir, et on en a parlé, c'est pareil pour les personnes en situation
de handicap. Et là, vous créez un logement.
On a travaillé beaucoup avec des ergothérapeutes pour penser un logement qui soit adapté à la perte d'autonomie. Donc un plateau de plein pied, des douches PMR, etc. Donc,
alors, un plateau, encore une fois, basique.
Oui.
C'est quoi?
Un plateau de 350 mètres carrés.
Rez-de-chaussée?
Rez-de-chaussée, R+1.
C'est quoi, c'est une maison, c'est un carré, un rectangle?
Ça peut être un rez-de-chaussée d'un immeuble, par exemple.
D'accord.
Et on travaille avec des
promoteurs.
Aménagé selon un cahier des charges qu'on a développé en itération, donc en l'améliorant à chaque fois, et en se disant, voilà, comment est-ce qu'on fait pour que, un, ça soit un domicile pour les personnes âgées, donc essayer de bannir un peu ce qui ressemble à du médico-social, et que ça fasse très domiciliaire, et en même temps pour que tout soit pratique pour des personnes.
Mais il y a quoi? Il y a des communs, des vrais communs, ou c'est des parties communes par rapport au réseau d'immeuble?
Alors, c'est comme une grande colocation. Donc, c'est un salon séjour cuisine qui est partagé. Et ensuite, chacun a sa partie privative d'une trentaine de mètres carrés.
C'est ce qu'on appelle des unités de vie, des PUV.
C'est un logement au sens
des
de...
PUV, vous savez, les petites unités de vie qui aujourd'hui comptent 8 à 10 personnes. Est-ce que ça s'inscrit dans le schéma des PUV?
Non, ça s'inscrit vraiment dans une thématique logement. Et
d'accord.
Donc, quand vous déclarez
Est-ce qu'il n'y a que des personnes âgées?
Alors, c'est aussi possible pour les personnes en situation de handicap. On a des confrères qui font des super colloques pour des personnes en situation de handicap. Nous, on s'adresse plutôt pour des personnes âgées.
Oui, c'était une question que j'avais. Vous ne mixez pas les populations?
Alors, on a par exemple, sur les 66 habitants maintenant dans nos colocations Domanie, on a une poignée de personnes en situation de handicap qui ne sont pas seniors, qui ne viennent pas parce qu'ils sont seniors.
Mais est-ce qu'on pourrait imaginer des étudiants en grosse galère, parce qu'aujourd'hui, ils sont presque 20% à avoir renoncé à leurs études, en se disant, ça peut être c'est smart d'avoir un étudiant qui a son permis de conduire, qui est capable d'avoir en autopartage la possibilité d'aider des personnes âgées dans une unité de vie comme celle-ci, qui pourrait y avoir son petit studio de 25 mètres carrés, lui aussi, pareil. C'est le 7, hein, dans le 9, par exemple. Et ça pourrait être... Non, c'est pas...
Alors bien sûr, ça, on y a pensé. Hein. C'est pour ça qu'on demande aux promoteurs immobiliers avec lesquels on travaille de nous donner en gestion quelques logements à côté des habitats partagés.
Je comprends.
Qu'on va proposer à ce type de public-là.
Question, Domanie existe depuis combien de temps?
Depuis 4 ans, bientôt.
66 habitants aujourd'hui.
Oui.
combien d'unités vous avez créées ?
Donc aujourd'hui, vous comptez, ça fait, alors on a des, c'est 8 ou 9 habitants par colocation, mais c'est 8 habitats aujourd'hui en exploitation.
D'accord. Est-ce que c'est du neuf ? Que du neuf ?
Aujourd'hui, c'est que du neuf.
Ok. Et Domanis, c'est la Caisse des dépôts qui est propriétaire de cette
start-up ? Actionnaire minoritaire.
Actionnaire minoritaire. Et vous en êtes l'un des cofondateurs ?
Je ne fais pas partie des deux cofondateurs, je suis premier salarié.
Ok. Ils ont eu la chance d'avoir la Caisse des dépôts. Ou CDC Habitat, peut-être, plutôt ?
CDC Habitat, donc la Banque des Territoires qui est au capital. Ouais. Et CDC Habitat qui a acheté en tant que bailleur.
Et CDC Habitat qui, finalement, est l'opérateur. Est-ce que ça veut dire que vous êtes un promoteur social ?
Alors, on n'est pas un promoteur, parce qu'encore une fois, on ne construit pas.
Vous êtes un opérateur.
On est un opérateur de l'économie sociale et solidaire. Ça, on en est très fiers.
Vous avez un promoteur. Oui. Il cherche un opérateur qui fait de l'immobilier opéré.
C'est ça.
Donc, vous êtes un domitis nouvelle génération.
Alors, on n'est pas la résidence service senior.
Je vous challenge.
On n'est pas la résidence service senior et aujourd'hui la plupart des majors de la promotion immobilière nous connaissent très bien puisqu'ils construisent actuellement des habitats de Manille, Nexity, CAD, Bouygues et compagnie, et ils connaissent notre cahier des charges et ils savent que c'est différent.
Qu'est-ce qui vous distingue du reste des petites unités de vie, des pensions de famille, des petits kibboutz urbains?
Une résidence senior par exemple c'est une centaine de T2, T3 en règle générale. Nous sur un projet de Manille on va faire 2 colocations par projet.
D'accord, c'est-à-dire que volontairement chez Domani, il y a des toutes petites unités.
C'est ça.
Ça ne peut pas dépasser.
Et donc, nous, on prend en moyenne autour de 1000 m² de surface habitable. Donc, c'est 5 à 6 fois plus petit qu'une résidence
senior. Donc, le promoteur qui construit, par exemple, imaginons que je suis un promoteur privé.
Oui.
D'accord ? Je m'appelle Kaufmann, Quartus, peu importe, Nexity. Je décide de faire un immeuble et je me dis, tiens, s'il y a une approche intéressante sur un rez-de-chaussée qui est adapté, je peux entrer en contact avec Domani en disant, aimeriez-vous éventuellement développer une unité de vie dans cette.
C'est exactement ça.
D'accord.
En fait, souvent, aujourd'hui, les promoteurs, ils doivent s'adapter aux demandes des mairies.
Qui achète le mètre carré ?
Alors, nous, on travaille dans un mécanisme avec un bailleur, privé ou social d'ailleurs, à qui nous va verser un loyer, dans le cadre d'un BFA classique.
D'accord. Donc, typiquement, CDC, qui est dans sa mission,
oui. Hein,
soit via Ampère, soit via d'autres
entités,
achète de l'immobilier à impact, hein, c'est de l'immobilier à impact, sur un temps très long, hein, puisqu'il finance ça sur 45 ou 50 ans,
oui.
et vous en devenez l'opérateur social.
C'est ça.
Vous êtes un administrateur de biens social.
C'est ça.
C'est ce que j'allais dire. Et moi, j'avais juste une petite question par rapport à ça, pour bien comprendre. Comment vous gérez au niveau des unités l'équipe accompagnatrice ? C'est-à-dire, quel est à peu près le staff pour, quand vous dites que vous avez 8 personnes, par exemple, sur une unité, quel est le staff sur site ?
Donc nous, de Manille, on va avoir un salarié par habitat partagé.
D'accord.
Qui est une coordinatrice de l'habitat, qui va animer le projet de vie sociale et partagée d'habitat.
Elle n'a que ça en charge ?
Oui.
Donc elle a 9 personnes à s'occuper ?
Alors, pour l'animation, hein, elle ne fait pas d'aide à la toilette,
non,
par
non,
exemple.
Non, non, non.
Alors, vous passez par des prestataires, je parle bien compris, des partenaires.
Okay. Mais ce n'est pas un plein temps ?
Ah si, c'est un équivalent temps plein, oui.
Un plein temps. Ouais. Donc, ça veut... Mais qui paye la charge ?
Alors, là-dedans, on est soutenu par un dispositif de la CNSA qui s'appelle l'aide à la vie partagée. Et donc, c'est cofinancé par la CNSA, les départements.
Okay, donc, vous avez compris où je veux en venir. Est-ce que tout le monde peut y avoir droit ?
Personne âgée ou en situation de handicap.
Mais avec de faibles revenus ?
Non, ce n'est pas lié aux revenus. C'est lié au fait d'avoir respecté le cahier des charges.
Quel que soit le revenu des personnes, toute personne dans ce pays peut y avoir accès.
Oui,
bien sûr.
Est-ce que je peux vous dire un mot ?
Oui.
Bravo.
Merci.
C'est super.
Bah, venez, moi, ce que je vais vous dire, c'est venez visiter
un
habitat d'Omani, parce qu'il faut vraiment voir à quoi ça ressemble sur place. Les 8 habitants.
Je viendrai aussi, on ira ensemble.
Alors, je vais vous dire, je ne suis pas fan de la marque, mais, mais j'aime beaucoup votre idée et ce que je trouve ça remarquable. Pierre-Yves Lenin, qui est toujours avec nous sur le plateau, vous qui êtes un spécialiste des fondations, des associations de ce type, vous en pensez quoi de cette idée ?
Ah ben forcément du bien, on gère aussi des AVP. Donc je ne vais pas dire le contraire.
Mais même pour vous c'est génial ça aussi, c'est pour refaire revenir des personnes en transition dans ce cadre-là, parce que moi ce que je vois chez Domani, c'est le concept peut s'adapter à plein de gens. Le vieillissement, l'intergénérationnel, les étudiants, les jeunes actifs qui arrivent en ville, etc. Parce qu'aujourd'hui, vous avez raison, on fait du co-living, on arrive avec des grosses unités, c'est massif. Mais trouver à l'échelle Iris sur un T9, comme vous dites, c'est très rare en fait de trouver ça. Vous avez trouvé votre équilibre, votre modèle économique ?
Oui, oui, vraiment. Sinon, je pense que en gestion, par exemple, nous accompagnerait pas. On est très challengé par les bailleurs qui nous accompagnent sur la solidité de notre modèle économique.
C'est super. Alors, on voulait mettre le focus. Vous voulez rajouter quelque chose pour conclure ?
Non, écoutez, je trouve que c'est plutôt bien. J'étais
très
content.
Comment vous avez trouvé ça, Xavier Bellevaux ? Il est incroyable.
Je suis plein de ressources.
Il sait tout, ce gars.
C'est pas possible. Non, loin de là, mais en tout cas, on essaye de rester à la page et je pense que c'est important.
Comment je fais pour en savoir plus? Je suis promoteur, est-ce que je peux... ça m'intéresse ce que vous faites? Je peux?
Bien sûr, non, domani-ess.com.
Voilà. Vous trouvez toutes les informations. Économie sociale et solidaire.
C'est ça.
Bravo.
Et nous, tous les trois, on ira visiter. Comme ça, vous prendrez des idées. Et puis, nous, ça nous permettra d'aller voir.
On a fait un très joli reportage la semaine dernière dans une unité de vie de Habitat Humanisme pour ramener les gens vers la vie. Et c'était très touchant. C'était vraiment extrêmement intéressant. Il faut soutenir des activités comme les vôtres, vraiment. Pierre-Yves Lenain et vous également. Théophile Henry, je rappelle que vous êtes du directeur de développement chez Domani. Eh bien, le lab, c'est terminé. Et nous allons devoir conclure, mon cher Xavier.
Et oui.
Extrêmement intéressant, vos émissions sur Débat IMO. On est bien, rapidement, pour conclure, dans l'idée du concept de Débat IMO, une émission qui ressemble pas tout à fait aux autres dans l'immobilier, mais qui a une charge sociale et engagée très forte.
Oui, complètement. Je pense que, comme je le dis souvent, ça fait plusieurs années maintenant, ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'immobilier, ça passe. J'ai toujours trouvé qu'on avait toujours un regard qui était toujours entre soi et soi. Et ça, c'est toujours très problématique. Et je trouve qu'on manque d'ouverture. Et je trouve que voilà, les avantages de ces tables rondes ou ces débats nous permettent justement d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Parce qu'effectivement, par moments, il faut qu'on puisse sortir de nos horizons.
Ouais, soi et soi, c'est terminé.
Exactement.
Nous sommes convoqués à nous-mêmes et nous avons décidé de nous séparer.
Oh, c'est beau.
Moi et moi, c'est fini. Voilà, je me suis dit, vous rappelez pas, c'était un sketch de Marc Jolivet. Merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur
également
le plateau. Merci pour ce nouvel opus donc de Débat IMO. Je rappelle que vous retrouvez le podcast, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux ainsi que sur les plateformes d'écoute, disponible sur l'application de Radio Territoria, également celle de Radio IMO. On vous retrouve bientôt, bien évidemment, Xavier. On retrouve le réseau WeInvest, très présent sur la toile, le moins qu'on puisse dire. Vous savez, le petit nœud pape qui va bien. On va vous retrouver au Salon de la copropriété, on va vous retrouver au Rent, on va vous retrouver un peu partout en France où s'implante actuellement le réseau. Ça va plutôt bien pour vous.
Ça se passe bien, merci.
Voilà, rendez-vous sur Internet, ne zappez pas. Et d'ici là, bien évidemment, les amis, vous prenez soin de vous. On se retrouve le mois prochain.
Débat IMO, une émission proposée par WeInvest, à réécouter et télécharger sur Radio IMO, Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.